souvienne. Il faut que je m'en souvienne toute ma vie. » Elle est allée trouver le gouvernant, le chef du pays où elle habitait, pour lui dire « Mais est-ce qu'on pourrait organiser une fête pour se souvenir des mamans qui ne sont plus là ou de celles qui sont là encore, mais qui font des choses qu'on ne voit pas toujours ?» Et le chef du pays a dit « Mais c'est une assez bonne idée, ça. On va le faire. » Et ils ont organisé une grande fête qui était nationale, et c'était la première fête des mères, 1907. Mais ici en Europe, évidemment, ce n'est pas la même chose, ça se fait toujours plus tard. Alors, il a fallu attendre une époque difficile. En 1941, eh bien, les temps étaient très difficiles en Europe. Vous savez, les enfants, qu'il y avait des grands soucis, vos grands-parents, ou peut-être arrière-grands-parents, mais peut-être les grands-parents, ils connaissent cette époque où la nourriture était difficile à trouver, les papas étaient au service militaire, à l'armée. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et les mamans, elles devaient faire face et trouver ce qu'il fallait pour leurs enfants. Et beaucoup de mamans, pendant cette période, dans les années comme ça, 30, fin des années 30, 40, 45, elles ont eu beaucoup de peine. Et un chef en France a aussi dit, mais il faut aussi qu'on fasse une fête pour encourager nos mamans. Il faut qu'on fasse aussi une fête, il faut qu'on leur offre quelque chose. Et ça a été la première fête des mères qui a commencé ici, en France. Et évidemment aussi en Suisse, en Belgique, en Allemagne, ça s'est répandu sur le continent ou près de chez nous. Alors cette fête, elle est là pourquoi ? Ce n'est pas l'anniversaire des mamans, ce n'est pas leur anniversaire, c'est le même jour pour toutes. Donc c'est une fête pour leur dire merci. Et cette fête, il a été décidé qu'elle avait lieu au mois de mai. Et au mois de mai, tiens, nous y sommes. Et en principe, le deuxième dimanche de mai, et nous y sommes aussi. Donc, c'est aujourd'hui, la fête des mamans. Et je me demande, les enfants, vous pensez que moi j'ai une maman, vieux comme je suis ? Eh ben oui, j'en ai encore ma maman. Oui, oui, elle n'est pas là. Elle est trop âgée pour être là, mais elle est encore là. Et donc, je vais vous faire une proposition. Je parlerai fort, parce que j'aurai pas le micro, mais je vais vous faire une proposition d'offrir un ou deux petits cadeaux à vos mamans. J'ai fait un petit jeu, que je faisais à l'école quand j'avais votre âge, quand j'étais même plus petit que vous. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un coin-coin, ils le savent. Un coin-coin. Alors, le coin-coin, c'est un outil merveilleux. J'espère qu'à l'école du dimanche, ils vont en faire. Où on compte, et puis on a une surprise. Alors, je vais proposer à une charmante personne
de chocolat, la rose, glace, une fleur.
Il y en a d'autres qui sont très marrantes. Voilà, alors maintenant, nous allons avoir un petit temps de louange et nous allons pouvoir chanter tous ensemble à la gloire de Dieu.
Je souhaite que notre culte dans son ensemble soit une louange au Seigneur, que notre culte dans son ensemble soit une occasion de rendre gloire au Seigneur et de le glorifier, et pas uniquement ces quelques chants, et ces quelques chants que nous allons prendre. Oui, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir entre nous, mais c'est vraiment pour proclamer le nom du Seigneur, proclamer sa majesté et sa gloire. Le Seigneur est bienveillant, il est compatissant. Alors disons-lui notre adoration au travers de ces deux chants, que tout mon être loue le Seigneur, mon être entier, puisse le louer et dire sa gloire. Je lis dans le psaume 111, « Alléluia, vive le Seigneur. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. celui qui les apprécie, en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. Et cette fidélité du Seigneur, c'est le thème du chant suivant. Au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, le Seigneur règne. Et il est là dans chaque situation, quand ça va bien, quand ça va mal. Il est un Dieu d'amour, infini et incroyable. Alors c'est à la fois ce Dieu glorieux qui surpasse tout, qui surpasse toute intelligence, et c'est ce Dieu Père qui est tout près de nous. Chantons ce chant.
Par-dessus tout. Bonjour à tous. Et merci pour votre accueil. Comme Philippe vous a déjà dit, je m'appelle Marianne, je suis animatrice des GBEU. Moi, je travaille principalement avec les étudiants universitaires, mais j'ai aussi une collègue qui travaille avec les étudiants dans les collèges. Donc, ce n'est pas vraiment dans des écoles, mais c'est dans des collèges. Et c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce matin et d'avoir l'opportunité de partager un peu notre travail dans les GBU. Cette semaine, je me suis rendu compte que ça fait un an qu'on est arrivé en Suisse, moi et mon mari Dan. On était à Oxford en Angleterre avant de venir ici. Puis il a pris un travail au CERN, donc ça c'est pourquoi on est là. Je ne sais pas si vous connaissez déjà notre travail, donc je vais faire un survol de qui nous sommes et de nos activités, plus généralement, et puis à Genève aussi. Donc, qui sont les GBEU? Voilà, qui sont les GBEU? Nous sommes des groupes d'étudiants qui cherchent à comprendre la Bible, prient et partagent l'Évangile à d'autres étudiants. Nous cherchons à lire la Bible dans son ensemble, c'est-à-dire nous tenons en compte que c'est une seule histoire, donc on lit le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien, et nous voulons encourager les étudiants à vivre et transmettre ce qu'ils comprennent du Dieu de la Bible et de ce qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'est qui nous sommes et ce qu'on fait en gros. Voilà. Nous faisons partie d'un mouvement international d'étudiants qui s'appelle IFES, donc vous avez le nom là, qui a été fondé en 1947, donc on n'est pas jeune ou nouveau. Il rassemble 500 000 étudiants chrétiens dans le monde. Il y aura l'Assemblée mondiale au Mexique cet été et nous allons envoyer 3 étudiants y participer. Donc ça c'est le mouvement international. Le mouvement suisse s'appelle GBEU, comme on a dit. Donc pourquoi mettons-nous l'accent sur les études bibliques? Donc on étudie la Bible parce que nous croyons qu'elle est la façon principale dont le Dieu de la Bible nous parle aujourd'hui. C'est son moyen choisi pour communiquer avec nous et de transmettre son message du salut, d'amour et de son caractère à nous. Si les étudiants sont chrétiens ou confessants, c'est le moyen de les fortifier et de nourrir leur foi. Et pour les étudiants qui ne sont pas croyants, parce que tout le monde est le bienvenu, ils sont directement confrontés à la personne de Jésus et sa vie, et à sa vie, mort et résurrection. Mais nous ne voulons pas que les étudiants aient tout simplement une connaissance théorique de la Bible, mais l'idée est que les étudiants s'approchent du Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui est entré dans le monde, dans la personne de Jésus, et qu'ils entrent en rapport avec lui. Donc c'est un travail de discipulat et d'évangélisation. Ça c'est pourquoi nous disons que nous favorisons la connaissance de Jésus-Christ au travers de l'étude de la Bible parmi les étudiants. Ces deux points sont liés. Plus on comprend ce que Jésus a fait pour nous, plus on est capable de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. On favorise aussi l'intégration de la foi aux interrogations du monde contemporain. Plus simplement, ça veut dire qu'on voudrait que les étudiants sachent comment vivre comme des chrétiens dans leur monde, le monde des étudiants, et de savoir quel est l'impact de la Bible sur leur vie. Nous ne voulons pas qu'ils se contentent de seulement entendre la parole, mais qu'ils la mettent en pratique. Donc, les GBU font des études bibliques hebdomadaires dans des collèges et dans l'Université de Genève. Il y a une seule université à Genève avec beaucoup de facultés. Cela veut dire qu'il y a des groupes d'étudiants qui se retrouvent chaque semaine pour ouvrir la Bible ensemble et étudier un texte qui appartient à un livre de la Bible. L'idée est d'étudier un livre dans son entier. Il y a normalement un responsable ou un autre membre du groupe qui anime l'étude biblique. Et on utilise la méthode bien connue OIA, observation, interprétation, application. Donc cette méthode nous permet de répondre aux questions importantes quand on lit n'importe quel texte biblique, comme qu'est-ce qui est écrit, quel est le sens du texte, et comment comprendre la façon dont le texte devrait changer ma vie. Ces études sont des lieux d'échange et de discussion. Ce n'est pas une conférence animée par un seul étudiant. Chaque étudiant peut poser des questions et donner son opinion et participer. Donc, qu'est-ce que nous avons fait cette année? Beaucoup de choses. Oh. Donc ça, c'est une image on a le groupe d'Unimai, là en haut, quelques membres du groupe. Et puis le groupe qui se retrouve, c'est un groupe anglophone dans l'HEID, donc Graduate Institute. Ils sont tous des étudiants qui font des masters ou des doctorats. Et puis un texte biblique. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année? En tant que GBEU Suisse romande, nous avons eu notre AG en mars. Nous avons fêté notre journée annuelle samedi le 18 avril à Bussigny. C'était très réjouissant de se retrouver là. En tant que GBU Genève, dans les trois groupes francophones, dans les universités ou dans l'université, nous avons fait des études bibliques hebdomadaires, des soirées sociales, une formation sur l'évangélisation personnelle. Dans le groupe anglophone, on a fait pareil. On a fait aussi une soirée dialogue-discussion où les étudiants invitent leurs amis en recherche à passer une soirée avec eux, où l'on discute un sujet choisi à l'avance. Nous avons aussi fait une fête de Noël avec les étudiants des GBE, avec Marmite, parce que c'était près de la fête de l'escalade, au mois de décembre, qui était génial. Ce semestre, il nous a été un peu difficile d'en faire plus, parce qu'on a vu une baisse en participants, parce que c'est la période des examens. Mais nous nous engageons dans un grand projet pour le semestre à venir, où nous allons organiser des conférences publiques à midi et le soir sur le campus. Et ces conférences auront lieu à Genève au mois de novembre. Mais pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on s'attend à faire, on va voir une petite vidéo de ce qu'ils ont fait à Lausanne, dans les GB de Lausanne, pour organiser une conférence autour des thèmes bibliques. On va voir la pub, je crois. C'est la pub pour la semaine qui est déjà passée.
Voilà, c'est pas méga stylé à la base de dire que t'es chrétien. D'ailleurs, quand j'en parle, ça provoque assez souvent des réactions du style.
Et donc, toi, t'as fait quoi ce week-end?
Alors, samedi, j'ai bossé mes cours. Le soir, je suis sorti. Dimanche matin, je suis allé à l'église. Et puis après, le dimanche après-midi, j'ai posé.
Quand je dis que je suis chrétien, tout le monde s'imagine direct. Alors que moi, le latin. Aeneam apud latinum fuisse in hospitio.
J'ai rien compris.
Il y en a d'autres aussi qui me disent que l'existence de Dieu n'a jamais été prouvée. Genre les gens qui te sortent des phrases toutes faites du style.
Ouais, enfin moi, je crois que ce que je vois.
Ah bon, ça me fait doucement sourire parce que y a plein de choses qu'on n'a pas vues mais auxquelles on croit. Du style.
Les atomes, de l'air, la chaleur, les ondes radio, l'amour. L'électricité, des liaisons intramoléculaires démontrant une singularité initiale.
Sinon, j'entends aussi ce genre de théorie.
Ouais, non, mais tu vois, moi je pense que les chrétiens, ils essaient toujours de tout dire pour qu'ils aient raison. Genre, à chaque fois qu'ils parlent de Jésus ou des trucs comme ça, il faut toujours que ce soit eux qui disent la vérité. Et puis, ils veulent toujours essayer de nous évangéliser comme ça, en mode Dieu t'aime, réponds-toi à mon fils, ça me saoule quoi.
Et non, ça s'appelle du
prosélytisme. Désigne l'attitude de ceux qui cherchent à susciter l'adhésion d'un public susceptible de devenir alors nouvel adhérent à leur foi. Par extension, le prosélytisme désigne le zèle déployé en vue de rallier des personnes à une doctrine. Le mot prosélytisme du latin ecclésiastique, proyer.
Après, j'ai des potes qui me sortent un contre-argument de malade.
Ouais, enfin, je voulais dire, tu vois, si tu dis Dieu, ou encore cette puissance surnaturelle, au-dessus de tout, invulnérable, intouchable, omnisciente, comme certains disent. Ouais, enfin, si elle existait, ben, je comprends pas pourquoi les gens souffriraient sur Terre. Ça me dépasse complètement. Tu vois, après, j'adore le concept. On peut en parler.
Je réponds quoi à ça, moi? Pas parce que je crois en Dieu que je me pose pas de questions. Des fois, je me pose tellement de questions que je me dis que je devrais écrire un livre.
Pourquoi les chrétiens veulent-ils que tout le monde se convertisse? Est-ce que le mal et la souffrance sont une preuve que Dieu n'existe pas? Dieu existe-t-il par la science ou par la foi?
Bref, il y a des façons très différentes de vivre sa foi, et il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut juste se respecter et s'accepter les uns les autres, chrétiens ou pas. Si toi aussi tu te poses ces questions, ou d'autres, réserve tes journées, tes midis et tes soirées du 17 au 20 mars 2015 pour participer au JB Days 2015. Rejoins aussi notre page Facebook en cliquant sur cette courbe de couleur magenta.
Voilà, ça c'était la pub pour le cycle de conférences qu'ils ont organisé à Lausanne. Donc on planifie tout ça pour Genève, mais en novembre. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc nous allons organiser aussi des événements pour lancer cette semaine, ce cycle de conférences, des soirées films, des soirées de prière, des soirées intergroupes. Et elles ont pour but d'encourager les étudiants sur les campus à réfléchir sur ce que la Bible dit et de voir jusqu'à quel point elle est pertinente pour nos vies et pour notre société. Donc ce n'est pas juste d'inviter nos amis, mais aussi de toucher tous les étudiants dans l'université. Et le but ultime est toujours de donner l'opportunité aux étudiants de répondre à l'Évangile dans un contexte où ils peuvent discuter avec des chrétiens de leurs objections et entrer en dialogue avec les textes bibliques. C'est une invitation de voir ce que Jésus dit dans la Bible de lui-même. Donc, ça c'est un peu le programme pour l'année à venir. Nous avons aussi un périodique des JBEU, paraît 4 fois par année. Il vous donne beaucoup d'informations sur les GB. Si vous aimeriez vous inscrire, il y aura la possibilité de le faire sur une feuille sur la table dans la salle à côté. On a aussi amené des livres si vous intéressez à lire les sujets qu'on aborde. Une autre bénédiction, c'est qu'on a un chalet. Vous pouvez le voir, c'est un chalet de ski en hiver, mais c'est un chalet des GBU. Et on organise des camps durant l'année. Et on peut utiliser ce chalet pour faire ça. Et vous pouvez nous suivre sur Internet si tu as Facebook ou sur notre site, il y a toujours des nouvelles. C'est mis à jour très régulièrement. Donc pour finir, quelques sujets de prière. On a toujours des sujets de reconnaissance à notre Seigneur qui pourvoit toujours pour nous. Et pour l'année écoulée, je suis reconnaissant des étudiants qui ont à cœur de se rassembler sur le campus pour lire la Bible ensemble, pour s'encourager et pour partager leur foi avec leurs amis et avec d'autres étudiants. D'autres sujets, c'est pour ce cycle de conférences en novembre qu'on planifie maintenant. On peut prier que nous ayons la possibilité de le faire dans le campus de l'Uni, afin de toucher et communiquer avec le plus grand nombre d'étudiants possible. Ce n'est pas évident avec l'Uni à Genève, qui s'appuie sur le fait que nous sommes dans un contexte laïque, mais on peut prier. Et il y a aussi toujours des choses à organiser, donc on peut prier que tout soit bien préparé à l'avance. Et on peut prier aussi que le Seigneur pourvoie au niveau des étudiants qui peuvent prendre la responsabilité des groupes bibliques hebdomadaires. Je suis très reconnaissant pour les étudiants qui ont pris ce rôle cette année. Ils étaient très, très fidèles, ils étaient super. Mais notre ministère est d'encourager les étudiants à vivre leur foi, à partager et la communiquer avec les gens qui les entourent. Donc on a besoin d'étudiants. Voilà, ce sont nos sujets de prière. Merci de votre attention.
Alors, je vais lire dans Genèse chapitre 3. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint.
Voilà, bonjour. Je vous propose de vous lever, de faire un tour sur vous-même, puis après de vous rasseoir, parce que ça fait beaucoup d'écouter. Puis comme ça, peut-être, s'il y en a qui s'endorment un peu, ça peut envigorer. Voilà, bonjour et merci pour votre accueil. C'est vraiment sympa d'être parmi vous. J'ai beaucoup entendu parler de cette église. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par ici, que j'ai connus au travers des années. Et donc, c'est vraiment sympa d'être ici. Aujourd'hui, j'avais choisi de vous parler de Jonas parce que c'est un de mes livres préférés de la Bible. Parce qu'on peut le lire à tellement différents niveaux. C'est bien sûr une histoire qu'on entend beaucoup à l'école du dimanche, du poisson qui avale le prophète, mais on peut aussi le lire en profondeur et on peut le lire d'une manière très profonde et analyser dans le contexte de l'époque. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Et vous verrez peut-être que j'en ai une lecture un peu différente que beaucoup de gens ont d'habitude. J'espère que ça ne va pas être trop controversé, mais j'espère que ça va remuer un petit peu, parce que je crois que cette histoire, elle est vraiment écrite pour remuer. J'ai appelé ça, alors est-ce qu'on peut avoir la projection, s'il vous plaît ? Je crois que c'est un livre d'ironie, et je vois 4 grandes ironies dans ce livre. Toujours pas de projection, bon tant pis, je vais avancer sinon. Ah, ça vient, voilà. J'ai dit le prophète qui croit tenir le Seigneur du ciel et de la terre dans sa poche. Et je crois que ça, c'est la grande ironie du prophète Jonas. Cette histoire, elle a été interprétée de manière très différente à travers les âges. On a eu bien sûr une interprétation très allégorique par les juifs anciens, par exemple, et à l'époque médiévale aussi, Et l'allégorie, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est qu'on voit des symboles dans tout. Donc le poisson représente une chose et comme ça. Et donc pendant longtemps, ça a été interprété d'une manière très allégorique. Mais à l'époque moderne, on s'est surtout débattu. Ben, de toute façon, ce n'est pas possible que cette histoire se soit passée. Donc le débat était plutôt là-dessus. C'était un peu rejeté. Mais en fait, tout ce débat, si c'est vrai ou faux, je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Parce que je crois que la grande question, c'est en fait, comme je le dis, c'est cet homme qui essaie de tenir le Dieu dans sa poche, tout en faisant des bruits, des prières pieuses, en parlant de la grandeur de Dieu, la grandeur de sa compassion, que le Dieu est universel, alors qu'il ne le croit vraiment pas dans son cœur. Donc voilà, j'aimerais juste faire une parenthèse en disant que quand je dis que c'est à côté de la plaque de dire que c'est vrai ou faux, Jésus, il traite quand même cette histoire comme vraie. Alors moi, je la crois bien comme vraie, mais je dis que quand ça a été écrit, ce n'était pas le but premier de faire passer ça, et vous verrez pourquoi quand j'y arrive. Le premier point que j'ai, alors j'ai parlé des quatre points, j'ai quatre points dans mon message, c'est l'ironie de la fausse doctrine, l'ironie de la fausse religion, l'ironie du faux roi, et puis l'ironie de la fausse mission. Alors mon premier point, c'est l'ironie de la fausse doctrine. Je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais je vais quand même vite la parcourir, hein, pour les deux premiers chapitres qu'on n'a pas lus en particulier. Le livre commence avec la parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai, et lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » La parole vient à Jonas et lui dit d'aller à Ninive. Ninive, c'est une ville dans l'Empire assyrien, qui était naissant à l'époque, ce n'était pas encore l'Empire assyrien, mais ça commençait. La ville, elle était connue du monde de l'époque comme étant très méchante. Je veux dire, c'est un peu comme l'État islamique aujourd'hui. Ils faisaient des atrocités. Donc, ce n'était pas quelque part où on voulait y aller. C'était des actes brutaux qu'ils faisaient vers les envahisseurs. Donc, pour comprendre, donc voilà, c'est un peu la réticence qu'il a allé là-bas, on peut la comprendre. Et puis le choix de Jonas est donc clair, il part complètement dans l'autre sens. Donc si vous pouvez vous imaginer, Ninive, c'est où il y a l'Irak moderne, et lui, il veut aller en Espagne, il prend un billet pour aller en Espagne. Il achète son billet, qui doit lui coûter une petite fortune, il doit probablement tout vendre pour acheter ce billet, pour aller 4000 kilomètres dans l'autre sens. Et puis bien sûr, vous connaissez l'histoire, le Seigneur ne le laisse pas s'échapper. Arrivé sur le bateau, il y a une tempête qui éclate et puis on voit toute une série d'ironies déjà qui commencent. Les marins païens prient, c'est eux qui prient vers leur Dieu, pendant que Jonas, il va se cacher au fond du bateau. Et puis l'équipage va vers Jonas pour essayer de le convaincre de prier. Donc c'est les païens qui ont plus de foi que Jonas. Et puis les autres équipiers, ils se disent, mais attendez, ils ne sont pas dupes, hein. Ils se rendent compte, on a pris ce passager à bord, et puis tout d'un coup, ça se passe mal. Alors ils le confrontent. Et puis, bon, alors Jonas, il avoue, il dit quand même ce qui se passe. Et il dit, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Donc il déclare une grande vérité. Mais tout ce qu'il fait, en fait, ça démontre qu'il fait tout sauf craindre le Seigneur. Donc il dit qu'il craint le Seigneur et il ne le craint pas. Et il préfère même mourir que de porter la mission du Seigneur. Et c'est l'équipage qui montre plus d'intérêt à préserver sa vie à lui que Jonas lui-même. Mais pour finir, il voit qu'ils vont tous mourir, que la situation est inévitable, alors il le jette par-dessus bord et puis tout de suite la tempête s'arrête. Et puis c'est les matelots ensuite qui invoquent, et c'est là qui est vraiment intéressant dans le texte en hébreu, ils invoquent le Seigneur Yahweh, donc ils utilisent le terme hébreu. Et c'est clairement fait pour illustrer que l'ironie que même les païens sont prêts à croire en Dieu, et à être plus fidèle que les Israélites. Donc c'est vraiment, je pense, écrit exprès le terme Yahweh. Et puis, voilà, j'ai appelé ça l'ironie de la fausse doctrine, parce que c'est vraiment clair que Jonas croit qu'il connaît Dieu, mais qu'il peut lui désobéir. Mais au fond, en fait, il ne connaît pas Dieu, et ultimement, il ne peut pas lui désobéir. Et ma grande question, moi, c'est la question que je me pose en lisant un texte comme ça, est-ce que nous n'agissons pas tous ainsi? Par exemple, juste pour donner un exemple, c'est un truc auquel je fais face tous les jours, parce qu'on habite au centre-ville de Lausanne, et on voit les mendiants, les pauvres. Jésus nous appelle à nous occuper des pauvres, mais on s'invite beaucoup d'excuses, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, et puis on remplit notre temps et nos moyens avec d'autres choses pour qu'on n'en ait plus. Donc moi, je me sens entièrement visé là-dedans. La deuxième grande ironie, c'est l'ironie de la fausse religion. Donc l'histoire, elle continue. Jonas, il est jeté à la mer, il se fait avaler par l'énorme poisson. Et puis dans la version traditionnelle qu'on entend à l'église du dimanche, c'est pendant qu'il est dans le poisson, il voit la vérité, il se repent, il se retourne vers le Seigneur, il prie, et puis le Seigneur lui donne une seconde chance et il se fait cracher dehors. C'est comme ça que vous vous en souvenez, plus ou moins? Ben voyons un peu. Il y a une très claire différence de style dans cette prière. Et je crois que cette différence de style, elle est faite pour marquer. Les commentateurs ont souvent pensé que c'était écrit par un autre auteur. Moi, je pense que quand les commentateurs libéraux disent ces commentaires, je me dis, mais celui qui les a mis ensemble, il n'a pas trop réfléchi, si vous pensez que ça ne va pas ensemble. Je pense que c'était vraiment écrit pour faire exprès, c'était genre une prière liturgique qu'il prie. Donc, on voit qu'il y a un changement dans son cœur quand il est dans le poisson, on l'admet. Il admet la présence du Seigneur dans tout ce qui lui est arrivé, en allant jusqu'à dire que c'est le Seigneur qui l'a jeté du bateau, alors que c'était les matelots. Donc il dit que c'est le Seigneur qui l'a jeté. Il a appris au travers de tout ce qui lui est arrivé qu'il ne peut pas s'échapper du Seigneur et qu'il ne peut plus lui désobéir. Donc ça, il l'admet. Mais par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de repentance. Il ne demande pas pardon pour ce qu'il a fait. Et pire que cela, il a des trous de mémoire qui sont quand même incroyables dans sa prière. Je pense que ça frise même l'insolence. Il dit, et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Il oublie que c'est lui qui essaie de s'échapper des yeux du Seigneur. Et la conclusion de sa prière n'est pas qu'il ira à Ninive et puis qu'il ira porter à bon la parole que le Seigneur lui a demandée, mais plutôt il retournera à Jérusalem offrir des sacrifices. Moi, je vois une énorme ironie là-dedans. Donc on voit cette prière comme une prière très pieuse et c'est fait pour qu'on la voie comme une prière très pieuse. C'est vraiment fait pour nous défier dans la piété. De louer le Seigneur, amen, un peu comme dans la vidéo, mais au fond, de ne pas porter à bon ses plans. Jonas a compris intellectuellement qui est Dieu, mais il n'a pas aligné son cœur au désir de Dieu. Et puis les prophètes, à l'époque de Jonas, et un peu plus tard, ils écrivent un peu sur les mêmes sujets. Par exemple, le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe 1, versets 11 à 14, je ne crois pas que j'ai mis ce verset, « Qu'ai-je à faire des multitudes de vos sacrifices ?» dit le Seigneur. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent. Je suis là de les supporter. » Donc voilà ce qu'il pense un peu de Jonas qui veut offrir ses offrandes au temple. Amos dit la même chose dans Amos 5, 21-24. « Je déteste vos fêtes, je les regrette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute plus pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Ce n'est pas que Esaïe et Amos étaient contre les sacrifices, mais tout comme Michée et d'autres, ils condamnent ce qu'ils font des sacrifices, qu'ils font des sacrifices alors que leurs cœurs ne sont pas à la bonne place. Et dans Esaïe, on lit aussi, dans le chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit que quand ce peuple s'approche de moi, celui-là, je crois que je l'ai à l'écran, ah non. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous voyez, on peut louer le Seigneur en allant à l'église tous les dimanches, en donnant toutes les bonnes paroles, les paroles justes, en ayant compris même les bonnes doctrines. Et puis, qu'est-ce qu'il y en a des exemples de pasteurs qui ont vraiment la bonne doctrine, mais où ça n'a pas joué dans d'autres domaines. On peut être dans le conseil d'église, faire tout ce qui est bien vu dans l'église, mais encore avoir notre cœur fermé à la volonté du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui est très riche, et pour une grande partie de nous, nos besoins ils sont plus que couverts. On a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on reçoit des salaires. Et puis même si on est au chômage, on reçoit quand même une rente. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Et des fois, quand c'est comme ça, on peut laisser notre foi passer à la routine. Dans l'Apocalypse, on lit « Je ne connais tes œuvres. Je sais bien que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien. Sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Et un collier pour te oindre les yeux afin que tu voies. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. » On n'a pas l'option d'être tiède dans notre foi, parce qu'on sera recraché. C'est tout de même fort comme mot. Mais on est tous appelés à suivre Jésus. Jésus nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sommes-nous vraiment prêts à nous renier nous-mêmes et porter sa croix? Cette option, ce n'est pas juste pour les pasteurs ou les quelques autres fanatiques de l'Évangile. Nous sommes tous appelés à suivre Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme et toute notre intelligence. Car l'autre option, c'est d'être vomi. Il y a pour chacun d'entre nous des parties de nos vies, je crois, qu'on a parfois la peine à unilatéralement relâcher à Jésus. Donc, je vous invite à le faire. Donc, le Seigneur parla au poisson, en fin du chapitre 2, qui vomit Jonas sur la terre ferme. Donc je ne sais pas si c'est une coïncidence que ce mot très fort de vomir est utilisé, ce n'est pas qu'il le recrache, c'est vraiment qu'il le vomit sur la terre. Et puis on arrive maintenant dans la troisième grande ironie, et voici le chapitre sur lequel on a, qu'on a entendu lu tout à l'heure, qui est le chapitre 3. Et là, tout d'un coup, on se retrouve devant un écho du premier chapitre. Nous entendons de nouveau le Seigneur qui vient et qui... Donc Jonas vient de prier sa prière, le poisson l'a vomi, il est sur une plage quelque part, on ne sait pas où, et nous avons ensuite à nouveau ces paroles. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et une seconde fois, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y une proclamation, fais-y la proclamation que je te dis. » Ces versets sont identiques au chapitre 1, mais il y a une petite différence, c'est que le message que le Seigneur lui donne est précis. Voilà, mais à part ça, c'est la même chose. Et puis dans le verset 3, on lit Jonas, il a maintenant compris qu'il ne peut plus s'échapper du Seigneur, et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Ah, voilà, donc voilà. Or, Ninive était une ville, grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche ou de visite pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça paraît un peu étrange que c'est marqué 3 jours pour visiter la ville. Ninive était probablement plus petit que Genève. Et puis on peut probablement traverser Genève d'un bout à l'autre, peut-être en 1 heure au plus. Hein. Mais en fait, c'était vraiment, quand il parlait comme ça, ça voulait dire ça prenait 3 jours pour proclamer le message dans tous les quartiers de la ville. Donc vraiment faire le tour, quartier par quartier, et proclamer ce message. Donc l'important, c'est que ça devrait prendre 3 jours pour faire ça. Et dans le verset 4, on lit... je ne l'ai pas marqué, mais le verset 4, c'est « Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. » Et puis, on voit quelque chose d'incroyable qui se passe. Jonas a traversé cet énorme périple en essayant de fuir Dieu, parce qu'il avait vraiment peur d'apporter ce message, mettant sa vie en danger. Et quand il entre enfin, il est à peine entré dans la ville et il proclame laconiquement encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et qu'est-ce qui se passe? Et on voit là dans verset 5, les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. On se dit, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement si un prophète complètement étranger débarque dans une grande ville fière et forte, proclamant un jugement, donc c'est du jugement, hein, il n'y a pas d'appel à la repentance ou autre, comment ça se fait que les gens ils se retournent tout d'un coup et ils se repentent? Mais justement, je crois que c'est l'ironie du message. Dans les versets 5 à 9, nous voyons l'ampleur de leur repentance. Le message de Jonas est plutôt simple. C'est un message de jugement, ni plus ni moins. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Il ne donne pas une présentation détaillée de l'évangile. Il ne distribue pas des feuillets de connaître Dieu personnellement. Il ne invite pas à un cours alpha. Il n'y a aucune description des péchés commis. Il n'y a aucune explication de qui est ce Dieu. Et ce qu'il demande, et le plus important, il n'y a aucun appel à la repentance. Certains diront qu'on n'a pas toute l'histoire, et c'est possible, on n'a pas tout écrit. Mais on sait que, d'après le chapitre 4, qu'on lira plus tard, que vraiment, Jonas, il ne veut pas qu'il se repente. Lui, il pense vraiment qu'il devrait être anéanti, ces gens. Donc s'il n'y a aucun appel à la repentance, comment se fait-il qu'ils réagissent ainsi? Et je pense que c'est parce qu'ultimement, ils connaissaient leur péché du fond de leur cœur. Ils savaient ce que Dieu voulait. Et au plus profond d'eux, ils avaient une compréhension du juste et du mal. Et mis face à cette perspective du jugement, ben, ils se repentent. Mais l'autre ironie dans le texte, c'est que les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Ça n'aurait pas été très normal pour les gens de Ninive de mettre un sac, c'était une tradition plutôt juive. Mais ici, on voit quelque chose, ils mettent un sac du plus grand au plus petit, et puis même les bêtes se repentent, elles y sont astreintes. Et ils offrent une repentance absolue au Dieu d'Israël. On voit de nouveau ce terme Yahweh qui ressort, et non plus Elohim. Donc ça, c'est vraiment le mot juif pour Dieu. Et la repentance ne s'arrête pas là, elle va jusqu'au roi. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se recouvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Vous imaginez nos chefs d'État faire ça aujourd'hui ? Se lever d'un trône, ôter son manteau, ça veut dire abdiquer, en fait. En faisant ça, le roi il se serait identifié pleinement avec son peuple. Il aurait pris le pied égal, étant un exemple pour eux. Il y a des exemples, le roi Baudouin qui avait fait ça il y a quelques années en Belgique. Donc l'ironie de cette histoire, ce n'est pas simplement que c'est eux qui se repentent. La grande ironie, c'est que alors qu'on voit cet État méchant, il faut s'imaginer l'État islamique, hein, qui se repente, le roi d'Israël faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et les actions du roi de Ninive sont également en contraste avec le roi Jéhoiakim, au message de Jérémie. Dans Jérémie 36, après que le roi il brûle le manuscrit du message que Jérémie lui donne, et le narrateur commente: « Ainsi le roi et tous les gens de la cour qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés. » Voyez le contraste ?« Et ne déchirèrent pas leurs vêtements. » Donc ici, on voit un roi étranger montrant une repentance absolue au Dieu d'Israël en utilisant des pratiques israélites, portant un sac et assis dans les cendres, quand les rois d'Israël font toujours ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc le grand thème du livre, pour moi, c'est sans doute que regardez, même les rois païens se repentent. Et que font vos rois? Qu'est-ce que vous faites, vous? C'était écrit au peuple d'Israël, le livre de Jonas. Ce n'était pas écrit aux gens de Ninive. Donc ça, c'était le troisième point. L'ironie du faux roi. Ensuite, mon dernier point sur lequel je vais finir, c'est l'ironie de la fausse mission. Le message de Jonas n'est pas simplement un message pour les Israélites à s'examiner eux-mêmes. Ça ne s'arrête pas juste à une examination interne. C'est également un rappel pour Israël à regarder plus loin. Car Israël, en fait, en cherchant à garder leur pureté, en suivant toutes les lois deutéronomiques, ils avaient oublié leur mandat, celui d'être un sacerdoce royal. Et quand le Seigneur était le Dieu, et que le Seigneur était le Dieu de toutes les nations, et que sa nation élue devait être un exemple pour le monde, et ça, ils l'ont oublié. L'exemple de cette fausse mission est trouvé tout particulièrement en Jonas lui-même. Et dans le chapitre 4, on voit que il est plus triste pour l'arbre, pour la plante qui lui cache du soleil, que pour les âmes de Ninive. C'est quand même frappant. Il pouvait leur apporter un message de jugement, ça allait, parce qu'il croyait qu'il le méritait. Mais apporter un message de repentance, c'est autre chose. Mais avant d'être critique de Jonas, est-ce que notre attitude n'est pas un peu pareille parfois? Est-ce qu'on n'est pas un peu rapide à juger le monde qui nous entoure et à croire qu'il est perdu et qu'on ne peut rien y faire et que on a meilleur temps de se cantonner avec les gens qui sont bien comme nous? Loin du monde. Est-ce qu'on passe pas plus de temps dans nos cercles saints de chrétiens, au lieu de faire des amitiés avec des non-chrétiens. Ça, c'est le grand défi pour beaucoup d'étudiants. Mais je dis, mais quels sont vos amis non-chrétiens avec qui vous vous cheminez? Et beaucoup, ben, ils ont des connaissances, mais vraiment des amis, très peu. En lisant l'Ancien Testament, on pourrait facilement croire que cette histoire est juste une fable. Mais Jésus dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Donc c'est clair que les gens de Ninive se sont vraiment repentis. Et je crois que ceci est un encouragement pour nous. Parce qu'on vit rempli de peuples méchants, dans un monde plein d'injustice, d'arrogance. Mais ce peuple peut se repentir et tout est possible. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami avec qui j'étais à l'école et après l'école, déjà à l'école, nos voies se séparaient. Il avait une vie qui était très différente de la mienne. Moi, je suis devenu chrétien à l'université. Lui, il était un coureur de jupons, assez avec beaucoup de succès, malheureusement. Et voilà. Et souvent, je me suis dit, mais il n'y a aucune chance de lui partager l'évangile. Mais vous savez, 20 ans après, ben voilà, son cœur s'ouvre, sa femme le quitte, et puis il s'ouvre à l'évangile. Donc, il y a toujours une opportunité. Il ne faut pas perdre espoir. Le chapitre 3 finit avec « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal et qu'ils avaient parlé de leur faire et il ne le fit pas. » Les Ninivites se sont repentis car ils croyaient. Ils croyaient, ils n'étaient même pas sûrs en fait. Ils croyaient que peut-être, juste peut-être, Dieu reviendra sur sa décision et changera d'avis. Ils n'avaient aucune certitude que Dieu les entendrait. Ils n'étaient même pas sûrs que leurs actions porteraient du fruit. Mais nous, on a cette certitude. Paul nous dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et puis on peut vraiment louer le Seigneur pour ce message de l'Évangile. Dieu a porté son plan divin aux Ninivites et nous aussi, et pour nous aussi, il porte son bon plan, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc comment est-ce qu'on peut répondre à ceci? Et moi je dirais, juste pour conclure, en apportant la bonne nouvelle partout où nous allons. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, ben j'ai quelques petites choses pour vous aider. On a des livres à l'entrée, et c'est des livres qu'on a édités. En fait, souvent on se dit, il faut avoir un expert pour apporter l'évangile. Ben, notre grand expert, c'est la Bible. Et on peut l'ouvrir très simplement. Je vais ouvrir cette copie que j'ai là. On a des études bibliques qui sont faites pour faire avec des non-chrétiens. Et c'est très, très simple. Hein. Il y a le texte biblique au milieu et des questions ouvertes. Et l'idée, c'est de faire parler les gens. Et souvent, en fait, quand nos amis qui ne sont pas chrétiens, ils n'ont souvent pas lu la Bible, donc ils sont assez intéressés. Et c'est vraiment un excellent moyen parce qu'on vient directement à la rencontre de Jésus. Et n'importe qui peut faire ça. Pas besoin d'être un docteur en théologie ou autre. N'importe qui peut lire la Bible avec un ami, comme on ferait avec un ami. Donc, ouais, je vous encourage vraiment à réfléchir à ça. On a des prix, des lots, ils sont un peu chers, ils sont 9 francs pièce, mais on a des prix de lots. Donc, c'est fait pour faire avec d'autres, donc. Je vous conseille le prix de l'eau. Sinon, on a un autre livre qui est gratuit, celui-là. Ça s'appelle Une nuée de témoins. Et c'est des histoires d'étudiants de la manière qu'ils partagent l'évangile tout au travers du monde. Et ça, c'est gratuit, vous pouvez en prendre, vous pouvez lire, c'est des histoires qui sont vraiment sympas. Philippe vous le recommande. Et puis un autre, c'est un livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. En français, ça s'appelait « La saveur partagée ». Mais on a changé le titre parce qu'on pensait que c'était plus parleur, non, de sortir de sa bulle. C'est un peu le message que je vous ai présenté aujourd'hui, sortir de sa bulle. Donc comment est-ce qu'on sort de notre bulle chrétienne pour partager, pour être le sel dans ce monde ? Et c'est écrit par Rebecca Manley Pippert, c'est traduit de l'anglais, mais c'est un excellent livre. C'est vraiment tout simple, mais ça parle. Et c'est comment être sel dans ce monde. Donc je vous le recommande. Il est très cher, parce que c'est un gros livre. Il est 27 francs, mais on vous le fait à 20 francs. Donc c'est une action, aujourd'hui seulement. Il y en a juste quelques exemplaires. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous partager ce matin, mais je pense qu'on est vraiment appelé à apporter cette bonne nouvelle dans ce monde qui en a tellement soif. Et il suffit de regarder autour de nous vraiment le désespoir qu'il peut y avoir dans ce monde où il n'y a plus aucun repère, où il n'y a plus aucune vérité. Et je crois qu'on a vraiment un beau message de salut à apporter en Jésus-Christ. Je propose que je prie et puis... Seigneur, merci pour ta parole de Jonas. Merci pour les défis de toute cette ironie qui nous perce le cœur et qui nous fait vraiment réfléchir sur la manière qu'on vit notre foi. Seigneur, je prie que tu nous aides à avoir une foi impliquée dans tous les domaines de nos vies et qu'on puisse apporter cette bonne nouvelle aux gens qui nous entourent. Donne-nous courage, donne-nous de la force et remplis-nous de ton Esprit, en ton nom. Amen.
Voilà, en notre nom à tous, je remercie beaucoup Marianne et Colline de leur intervention. On voit cet exposé de la juste doctrine et de l'attitude juste, ça c'est un beau challenge. Nous allons contribuer aussi à cette évangélisation avec l'offrande que nous allons maintenant récolter. Et nous chanterons le chant 590.
L'esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton
Merci, nous allons prier. Prenez place. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de tout ce que nous avons entendu, de cette nourriture spirituelle. Nous te rendons grâce pour l'offrande que nous avons pu te consacrer. Et c'est une part des biens que tu nous as toi-même déjà donnés, que nous voulons consacrer pour que tu en fasses une bénédiction pour ceux qui en ont besoin, là où c'est nécessaire, et pour la gloire de ton nom. Et nous voulons te remettre ceux qui passent dans un temps d'épreuve, dans un temps de privation, dans un temps de souffrance ou de persécution. Et nous voulons que tout le bien que nous pouvons faire, notre main soit capable de le faire avec ton esprit. Amen. Voilà, c'est le temps des annonces. Je cède la parole aux annonceurs.
Du 10 mai, c'est juste ? Oui, c'est le 10 mai. Alors, une première annonce qui n'est pas sur le flyer, c'est celle-ci. Vous avez là des enveloppes qui ont à l'intérieur les bulletins de vote pour le renouvellement du conseil. Barbara Jeunecamp a les enveloppes ici, aujourd'hui, si vous pouvez venir vers elle pour les retirer. C'est tout ça qu'il n'y aura pas besoin d'envoyer par la poste. Merci d'avance. Lundi 11 mai, au CEPOM, une conférence organisée par l'Association pour la promotion du dialogue interculturel et interreligieux. J'ai là quelques flyers. C'est un cycle de 3 conférences. La première a déjà eu lieu, mais les 2 suivantes, 11 mai et 10 juin, sont encore à venir. Celle-ci est au CEPOM, donc juste à côté de chez nous. C'est une occasion. Voilà, dimanche 17 mai, le culte, c'est pas du gâteau. C'est un dimanche spécial. À l'occasion de ce culte, qui se déroulera dans une configuration de salle un peu différente, je vous demanderai, à l'issue de cette célébration, de mettre les chaises sur les deux côtés de la salle pour dégager l'espace central. Et puis après, nous pourrons, si quelques-uns veulent bien aider, installer quelques tables. Et on continue dans la pâtisserie. Le groupe de jeunes organise le délicieux petit déjeuner tresse. Vous connaissez ça ? C'est un super instant de convivialité fraternelle qui aura lieu donc le 7 juin dès 8h30. Ça permet de financer en partie le camp de ski. Alors il y a 3 possibilités d'inscription. Le panneau d'affichage qui sera à la sortie, le mail responsable ctt@emmerin.com et le responsable du groupe de jeunes. Alors, où est le responsable du groupe de jeunes ? Debout, s'il vous plaît, merci. Voilà, ils sont 4 ici. Comme ça, vous savez auprès de qui vous pouvez vous adresser. Mardi 16 juin, sortie annuelle du fil d'argent. Le programme est à venir, mais la date à déjà retenir. C'est presque un alexandrin, mais pas tout à fait. Samedi 26 septembre, le Forum Mérin fête ses 20 ans et il propose une activité 12 heures de musique avec 12 chorales mérinoises. L'EM a été sollicitée pour participer à cet événement, elle s'est inscrite et une chorale est fermée pour l'occasion. Si vous aimez chanter, vous pouvez rejoindre ce groupe. Les contacts, c'est David Jeunecamp et Catherine Meyer. Et dès la fin du culte, rendez-vous avec les objets trouvés. Vous avez là un choix exhaustif de services et de couverts. Suivant, voilà, il y en a beaucoup et il y en a d'autres. Vous avez sûrement reconnu le parapluie que vous cherchez désespérément. Les objets trouvés sont, à l'exception du joli petit plat qui rappelait la course de l'escalade, les objets trouvés sont dans le coffre qui est vers la dernière fenêtre là-bas. Alors vous pouvez soulever le coffre qui vous attend et découvrir les trésors qui y sont cachés. Merci.
Donc, je vais juste lire, en fait, la fin de Matthieu, où Jésus dit, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il lui leur dit ensuite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.